Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le variant Omicron tisse sa toile. Premier cas confirmé aux États-Unis, 13 cas suspects en France. Le gouvernement durcit les conditions d'entrée sur notre territoire. Détail dans un instant. Faut-il rendre le vaccin obligatoire ? Pour la présidente de la Commission de Bruxelles, il est grand temps d'y réfléchir. La France ne prendra pas cette décision, répond Olivier Véran. Qui a tué Nadège Desnois, étranglée, poignardée à Château-Thierry? Après 30 ans de mystère, l'ADN vient peut-être de confondre le meurtrier. Récit dans ce journal. Margot Pinault ne digère pas la relaxe de son compagnon accusé de violence conjugale. La judoka, visage marqué par les coups, donne sa version des faits, vous l'entendrez. PSG Nice, ce soir au Parc des Princes. Cédric Chasseur, où en est le score?
Eh bien, on espère que la seconde période sera de meilleure qualité que la première. 0-0 après 45 minutes, on s'est ennuyé, même si Nice s'est créé les meilleures occasions. Les deux équipes sont encore au vestiaire.
Merci Cédric, on vous retrouve dans quelques minutes. La météo de ce jeudi et les températures replongent, nous confirmera Marlène Duret. L'invité éco, on reviendra sur cette mauvaise forme du marché de l'automobile, à nouveau en baisse en novembre. Et puis, on découvrira les gros titres des quotidiens de demain matin.
Europe 1.
La France a un cheveu des 50 000 cas de Covid par jour, 49 610 contaminations précisément dans les dernières 24 heures et toujours 13 cas suspects d'Omicron. Les signaux sont au rouge, Jacques Serey, le gouvernement décide de serrer la vis.
Oui, les conditions d'accès pour rentrer sur le territoire français sont durcies. Tout voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra présenter à l'embarquement un test négatif de moins de 48 heures et ce que cette personne soit vaccinée ou non. Serrage de vis également pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne. Là, pour les non vaccinés, la France imposera un test négatif de moins de 24 heures. Jusqu'à présent, c'était 72 heures. Durcissement d'un côté, mais léger relâchement de l'autre, puisqu'à compter de samedi, les vols qui étaient suspendus avec les pays de l'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud, vont reprendre, sous certaines conditions tout de même, comme l'a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Les ressortissants français, les résidents qui sont bloqués, pourront regagner la France. Ils pourront le faire en produisant un test négatif à l'embarquement et ils pourront le faire en étant testés à l'arrivée et en respectant un isolement obligatoire pendant 7 à 10 jours selon le résultat de leur test. Mais vous voyez bien qu'on ne prend aucun risque.
Et une amende de 1 000 à 1 500 euros est prévue pour les voyageurs en provenance de ces pays d'Afrique australe qui ne respecteraient pas leur isolement.
Jacques Serey du service politique d'Europe 1. Faut-il, oui ou non, rendre la vaccination obligatoire? Ursula von der Leyen pense que oui, à l'exemple de l'Autriche qui y va, de l'Allemagne qui fait un pas dans cette direction. La présidente de la Commission européenne estime à tout le moins qu'il est grand temps d'y réfléchir.
Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée.
Rendre le vaccin anti-Covid obligatoire. Dans tous les cas, la décision revient à chaque État membre. Écoutez la réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. On sait faire une obligation vaccinale chez les tout-petits, chez les nourrissons, puisque vous ne pouvez pas rentrer dans un établissement collectif type crèche ou école si vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies de vaccination obligatoire. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, et je comprends parfaitement que certains pays puissent se poser la question. En France, nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant, et je l'ai dit, nous avons encore notre destin entre nos mains, et cet effet coupe-feu d'une campagne de rappel vaccinal massive, ça a fonctionné dans d'autres pays, ça fonctionnera chez nous.
Olivier Véran qui souhaite aussi rassurer les Français qui ne parviennent toujours pas à trouver un rendez-vous pour la dose de rappel. C'est toujours la ruée, vous le savez, sur les créneaux. Jusqu'ici, il n'y en a pas pour tout le monde, mais pas de panique, assure le ministre de la Santé. Tout le monde sera servi dans les 7 à 8 semaines qui viennent. Près de 5 millions de personnes ont obtenu un rendez-vous pour l'instant. Malgré les restrictions, Omicron ne connaît pas de frontières. Les États-Unis confirment un premier cas sur leur territoire. Il s'agit d'un voyageur de retour d'Afrique du Sud, entièrement vacciné, mais testé malgré tout positif. 4 jours de scrutin et 2 tours pour départager 5 candidats à la candidature. Les adhérents Les Républicains ont commencé à voter aujourd'hui pour désigner leur champion ou leur championne qui ira briguer l'Élysée. Alexandre Chauveau, vous avez déjà un premier chiffre concernant la participation?
Oui, 52,8%, ça correspond à un petit peu moins de 74 000 votants pour l'instant. Un chiffre qui augmentera encore d'ici demain 14h, heure de la fin du premier tour, et qui sera évidemment scruté. Car même si le corps électoral est restreint aux adhérents, plus la participation sera importante et plus le candidat arrivé en tête aura de légitimité. L'objectif pour les Républicains étant, on le rappelle, de lancer une dynamique à 5 mois de la présidentielle. Et puis ce sera également un moyen pour les 3 autres candidats non qualifiés de peser dans l'optique du second tour. Le scrutin étant particulièrement serré, les alliances entre candidats et les reports de voix pourraient jouer un rôle décisif. À ce stade, aucun candidat n'a réellement anticipé sa campagne de second tour, qui ne durera de toute façon que quelques heures entre demain après-midi et demain soir minuit. Il n'y aura ainsi pas de débat entre les finalistes, conformément à la volonté du parti qui ne voulait pas laisser de place à la moindre division. Le second tour aura donc lieu dans la foulée entre vendredi 8h et samedi 14h. Et c'est samedi à 14h30 que l'on connaîtra le ou la grande vainqueur qui tiendra un grand meeting la semaine suivante, porte de Versailles à Paris.
Alexandre Chauveau, le premier meeting du candidat Éric Zemmour dimanche prochain n'aura pas lieu au Zénith de Paris, mais à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, de quoi accueillir les 19 000 inscrits, mais aussi à bonne distance d'une manifestation d'opposants prévue dimanche aux abords du Zénith. Les élus du 19e arrondissement de Paris avaient demandé au préfet de police l'annulation du meeting d'Éric Zemmour, pointant les risques de troubles à l'ordre public. Laetitia Hallyday accuse le candidat Zemmour de détourner l'image de Johnny au profit de sa propagande dans son clip mis en ligne hier à l'évocation d'une France supposée révolue. La vidéo montre des images de Johnny Hallyday. Et bien ce soir, sa veuve demande à son avocat d'envisager toutes les poursuites nécessaires. Voilà une première victoire pour les pêcheurs français dans la crise des licences de pêche qui oppose Paris et Londres. L'île anglo-normande de Guernesey décide d'accorder 43 licences à des bateaux français qui pourront donc continuer à travailler dans les eaux britanniques après le 1er février prochain, à la grande satisfaction de Marc Delahaye, directeur du comité des pêches de Normandie.
Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça réouvre une perspective à tous ceux qui avaient des droits historiques prouvés dans ces eaux. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire travailler leur entreprise comme ils le faisaient par le passé. Guernesey, ils sont allés d'une façon très technique, pas du tout politique. Par contre, j'émettrai un bémol. On attend plus d'informations sur les mesures techniques qui vont accompagner les accès qui ont été donnés par Guernesey. Savoir combien de jours, quelle quantité possible, quel type d'engin, quelle espèce, quelle saisonnalité. Il y a encore du travail à faire, c'est clair.
Marc Delahaye du comité des pêches de Normandie avec Thibaut Hue. 43 licences, c'est bien, reconnaît Annick Girardin, mais de fait, ça ne suffit pas, ajoute-t-elle. Il en manque encore 111, dénombre donc la ministre de la Mer qui promet de continuer le combat.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Une fois de plus, peut-être, les progrès de la science vont permettre de démêler un cold case. Ça fait presque 30 ans que cette affaire criminelle reste un mystère. Le meurtre de Nadège Desnois en 1994 à Château-Thierry est toujours resté impuni. Sauf que, 27 ans plus tard, un homme de 55 ans vient d'être placé en garde à vue, Yasmina Katou. Son ADN a matché.
Oui, son ADN a été récemment enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques dans le cadre d'une affaire de violence conjugale. Et ces empreintes correspondent à celles retrouvées sur la scène de crime il y a près de 30 ans. En mai 1994, dans l'Aisne, Nadège Desnois, 17 ans, est retrouvée morte, étranglée et lardée de coups de couteau. Son corps avait été abandonné sur le bord d'un chemin à proximité de son lycée. Dans un premier temps, la piste de Michel Fourniret, le tueur en série a été explorée par les enquêteurs. Finalement, son ADN l'a trahi. Le quinquagénaire était donc entendu par les enquêteurs depuis son arrestation hier. Il est connu par les services de police pour des faits d'enlèvement d'enfants. L'homme doit maintenant s'expliquer sur la présence de son ADN sur la scène de crime.
Yasmina Katou. La photo est choquante. Dernière photo en date de la judoka Margot Pineau. Son visage porte des traces de coups violents. La championne olympique l'a dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle ne comprend pas que la justice ait décidé hier soir de relaxer son compagnon, l'entraîneur Alain Schmitt, qu'elle accuse de violence conjugale. Le parquet a d'ailleurs fait appel de cette décision, Jean-François Pérez. De fait, la photo de Margot Pineau est très parlante.
Oui, c'est une photo qui a déjà indigné des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. On y voit le visage tuméfié de Margot Pineau. Elle affirme avoir frôlé la mort sous les coups d'Alain Schmitt dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons joint la championne ce soir. Elle ne souhaite plus s'exprimer pour le moment, mais elle nous a confié qu'elle était encore sous le choc de ce déferlement de violence manifestement réciproque. réciproques. Pour Europe 1, le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, accepte ce soir de revenir sur les faits. Il s'étonne que la justice ait, dans un premier temps, relaxé l'ancien judoka.
J'étais hyper choqué de la voir dans cet état-là le premier jour. C'était c'était vraiment dur. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Il y a une phrase moi qui m'a choqué, c'est « absence de preuves ». 10 jours de ITT, le nez, les marques au visage, et tuminifié partout, des bosses. Et voilà, c'est plus que de communiquer. Depuis 3 jours, on fait avec elle et on est proche d'elle et on est à son soutien.
Voilà, le parquet de Bobigny ayant fait appel de cette relaxe pour absence de preuves. Le dossier reste ouvert. En attendant, le monde du judo monte au soutien de la double championne d'Europe et championne olympique par équipe. Clarisse Agbegnénou s'interroge. Que faut-il pour que des sanctions tombent? La mort, point d'interrogation. Et Teddy Riner se dit profondément touché. Il dénonce des violences intolérables et inacceptables.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Dans l'actualité de ce mercredi également, ce chiffre qui retient l'attention et qui montre la banalisation du cannabis chez les plus jeunes. En France, plus de 47% des 15-24 ans ont déjà fumé un joint au moins une fois, sondage IFOP pour High Society. À Marseille, par exemple, Stéphane Burgat a rencontré ces lycéens qui confirment combien la pratique est répandue.
C'est assez commun, ouais. On peut s'en procurer assez facilement. C'est pas très grave, je pense.
Il y en a plein, ils fument des joints. C'est pas parce qu'il y en a, il a fumé un joint, que c'est ça faut dire. C'est pas ultra grave, c'est un joint, quoi. C'est comme de l'alcool.
En soirée, pareil, s'il n'y a pas de quoi fumer, on vient pas parce que c'est nul, on s'amusera pas. Voilà. C'est aussi banal qu'un pack de bière maintenant.
Le cannabis, aussi banal qu'un pack de bière. Près de la moitié des 15-24 ans ont essayé. Voyons ce qu'en pense le professeur Hamid Benyamina, addictologue à l'hôpital Paul Brousse.
Ce sont des chiffres que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années et qui sont régulièrement rapportés par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, à travers les enquêtes faites régulièrement, notamment les enquêtes des jeunes de 17 ans qu'on appelle escapades. Donc c'est vrai que on a le sentiment de découvrir, mais non. En revanche, le consensus, il est clair, il est scientifique, il est mondial. Il faut mettre une politique de prévention et peut-être même d'interdiction pour les jeunes. Sauf que la prohibition, tout craint actuellement, est un saupoudrage et qui n'a aucun sens. Des moyens de police avec une absence totale de prévention et une information réelle sur le produit, sur les risques encourus.
Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie, avec Romain Desarbres dans Europe Midi. En France, plus de 20 000 personnes vivent avec le virus du sida sans le savoir. Ce 1er décembre est marqué comme chaque année par la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Nous sommes en 2021. Aujourd'hui encore, pourtant, les malades affrontent les préjugés, parfois même des discriminations. Écoutez le témoignage de Flavie, 57 ans, dont 35 ans de séropositivité.
Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de travailler avec des enfants pour des ateliers, mais on me demandait de travailler éloigné des enfants, de ne pas m'en approcher. Et ils n'ont pas compris que je n'accepte pas cet emploi. Les gens sont gentils avec moi, mais relativement rassurés que je sois un peu en dehors du système. Et c'est ça que je ne veux pas qu'il arrive aux plus jeunes. Je voudrais qu'ils puissent vivre normalement et qu'on ne les oblige pas à se mettre en marge de la société. Ce qu'on m'a un peu poussé à faire à une époque de ma vie. Il n'y a pas de raison qu'on leur demande de se mettre en marge de la société. Elles peuvent vivre tout à fait normalement. Elles ont des traitements tout à fait corrects qui vraiment sont aujourd'hui incroyables. Et donc, elles doivent avoir des vies normales.
Un témoignage de Flavie avec Afsaneh Saboui. Flavie est d'ailleurs l'un des 5 visages de la nouvelle campagne de l'association Aide. En Autriche, une chirurgienne condamnée après avoir amputé l'un de ses patients de la mauvaise jambe. Pour cette terrible erreur médicale, la chirurgienne écope d'une amende de 2 700 euros ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts à la veuve de son patient âgé de 82 ans puisque celui-ci a perdu la vie entre-temps. Le PSG affronte Nice ce soir au Parc des Princes. C'est la 16e journée de Ligue 1. En direct du parc, on retrouve Cédric Chasseur. Cédric, où en est le score?
Toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Nice. 52 minutes de jeu. Ça s'anime un petit peu. C'est un peu mieux ce début de seconde période après 45 premières minutes. Assez mollassonne avec tout de même des Niçois qui sont créés deux grosses occasions dans ces 45 premières minutes. Là, c'est le PSG qui s'est réveillé. Il y a d'abord eu une frappe de Di Maria à l'entrée de la surface de réparation. Bel arrêt de Benitez qui était venu à son contact. Et puis juste après, dans la minute, une frappe du pied gauche de Nuno Mendes croisé que le gardien des Aiglons niçois est allé chercher et détourner en corner. Voilà le Paris Saint-Germain qui domine. qui a la possession du ballon, mais ça ronronne. Le ballon d'or, Lionel Messi, n'est pas très visible jusqu'ici. Kylian Mbappé est plutôt énervé auprès de ses coéquipiers qui ne le servent pas toujours dans des bonnes conditions. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain dans un duel entre le premier et le troisième de la Ligue 1 qui est loin de tenir toutes ses promesses. Il reste encore 40 minutes, un peu moins, pour nous faire mentir et nous prouver que ce match peut encore faire rêver 0-0. Et il reste 35 minutes à jouer.
Merci Cédric Chasseur. On va voir la suite avec vous en direct du Parc des Princes. On refera un point avec vous Cédric sur ce PSG Nice juste avant 22h30. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret. Nous aurons un ciel changeant. Demain, il fera aussi plus frais et plus humide à l'est.
Oui, alors plus frais partout, j'ai envie de dire, mais plus humide à l'est, ça c'est sûr Alexandre. C'est un ciel de traîne en fait, plus ou moins actif, qui va se généraliser, accompagné donc de cette arrivée d'air plus froid. Un temps agiboulé, disons-le, le long de la frontière belge, dans les régions du Grand Est, sur une grande partie de la Bourgogne, en Alsace, en Franche-Comté, en Auvergne, région Rhône-Alpes, Midi, Pyrénées. Le temps donc sera nuageux à couvert et pourra donner des averses avec des limites pluie neige qui s'abaissent. Vraiment, il va neiger à basse altitude, jusqu'à 300 mètres dans les Vosges, 400 dans le Jura et le Massif central, 500 dans les Alpes. Il neigera jusqu'en plaine aussi, même si la neige ne tient pas au sol. Bon, il pourra neiger près des frontières du Nord et du Nord-Est. Et puis les nuages vont venir se bloquer aussi le long des Pyrénées avec évidemment de la neige là aussi, un petit peu plus haut, vers 800-900 mètres. Du côté de la Méditerranée, après la pluie, le beau temps. Retour du beau temps grâce au vent qui s'oriente au nord-ouest. Alors ce ne sera pas le cas vers la Corse parce que le vent est orienté différemment. Donc pour le sud des Alpes et le pourtour méditerranéen, très belle journée. Et puis pour toutes les autres régions, en général c'est plutôt les régions de l'ouest, de belles éclaircies, on n'exclut pas une petite averse. Et puis à nouveau, le temps va se dégrader en Bretagne. Ça annonce une nouvelle dégradation, donc des pluies, des petites averses en tout cas pour l'après-midi en Bretagne.
Vous nous passez ça avec un sourire désarmant, Marlène.
Vous voulez un petit mot des températures?
Bien sûr.
Donc je le disais, ça baisse, sauf peut-être dans le sud-est, mais ailleurs c'est vrai que ça baisse partout. Les maximales en journée, c'est bien simple, 3 degrés à Saint-Étienne, Briançon, 5 à Reims, Nevers, Nancy, Grenoble, il fera 6 degrés à Paris, à Roubaix, à Clermont-Ferrand, 7 à Lyon, Angoulême, au Havre, à Tours, 8 degrés à Toulouse, 9 à Bordeaux, on est vraiment sous les 10 degrés. Les 10 degrés, on peut les atteindre du côté de Brest. Et puis autour de la Méditerranée, 13 à Marseille, 15 à Bastia ou encore à Mandelieu-la-Napoule.
Merci Marlène Duret. On vous retrouve à minuit pour un nouveau point météo dans une respiration. Restez avec nous, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamon. A tout de suite. Top à Wall Street avec Didier Hamon qui nous rejoint à l'instant sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street cherche à se stabiliser mais en vain après sa chute des dernières séances.
Oui, c'est pénible, hein. Ça baisse finalement et pourtant la hausse était d'actualité à l'ouverture et puis ça a baissé finalement en fin de journée, moins 1,3%. Assez nettement d'ailleurs, hein, moins 1,34% sur le Dow Jones, 34 021 points. Le Nasdaq perd 1,83% de nouveau, 15 254 points. Le rebond du début de séance a tourné court donc et le marché reste pris en tenaille entre la crise sanitaire et le durcissement monétaire en vue de la Réserve fédérale. Son patron, Jérôme Powell, ne voit plus l'inflation comme un phénomène temporaire mais durable. Alors ça change tout. Et ça donne des valeurs encore en baisse sur les valeurs de technologie en particulier. On souffre sur Netflix, moins 3,8%, Tesla, moins 4,3%, baisse d'Amazon, moins 1,8%, Google, moins 0,6%, Apple, moins 0,3%, les banques aussi reculent de nouveau. Goldman Sachs, moins 0,6%, JP Morgan, moins 0,6% aussi, Morgan Stanley, moins 0,5%. Puis le pétrole qui tentait un rebond, eh bien, du coup, repère toute son avance, ça redescend nettement de 2,6% sur le baril, $65 le baril WTI, avant une nouvelle réunion de l'OPEP qui va faire le point demain pour essayer donc de maîtriser un petit peu mieux le marché qui repart en forte baisse ce soir. L'euro est beaucoup plus calme, 1,13 face au dollar.
La Bourse de Paris, elle regagne plus de 2% après la correction des derniers jours.
Oui, quand même, plus 2,39%, un net rebond sur le CAC 40, 6 881 points. C'est le secteur automobile en particulier qui avait beaucoup baissé, qui s'est repris. On a Stellantis, plus 5,5% ce soir, 15,97€ après 4 séances de baisse consécutives. Renault, plus 3% après 10% de chute en 3 séances. Renault remonte à 29,33€. Des rebonds aussi sur Valeo, plus 4,4%. Sur Michelin, plus 4,2%, 136€. Puis de grosses valeurs industrielles comme Schneider, comme Rexel ou Safran remontent de 4%.
Et puis enfin, Didier, le secteur pharmaceutique marque une pause après sa récente envolée.
Oui, c'est logique, hein, puisque le marché s'est un petit peu repris. Le secteur pharmaceutique est bien profité de la crise, on va dire. Eh bien, ça redescend un petit peu. Eurofins et Biomérieux, moins 6 et moins 3%. Les deux laboratoires en baisse ce soir. Sartorius Stedim, fournisseur d'équipements de laboratoire, recule aussi de 3,8%, 501 euros. Mais ça reste quand même très élevé sur le secteur de la pharmacie. Les autres places financières rebondissent, hein, à Francfort, plus 2,5%. En Europe, tout le monde monte. En fait, aujourd'hui, Bruxelles a repris 1%, Madrid 1,3%, Milan 2,1%. Le CAC 40 a regagné donc 2,39%, 6 881 points.
Merci Didier Hamot.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Le marché automobile, je vous en parlais il y a quelques minutes, a connu un nouveau recul au mois de novembre. Pour en parler ce soir, l'invité éco est François Roudier, porte-parole de la plateforme française de l'automobile. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir François Roudier.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de ce que l'on appelle la plateforme de la filière automobile. C'est l'organisme qui représente bien évidemment tout ce secteur de l'automobile. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'on a eu ce matin les ventes pour le mois de novembre. Et ce mois de novembre est une fois de plus mauvais, un recul de 3,21% par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, novembre 2020, on était en plein confinement. C'était déjà un mauvais mois. C'est dire que ça ne repart toujours pas. Est-ce que c'est toujours cette fameuse crise des semi-conducteurs qui explique cette faiblesse du marché automobile français ?
Oui, c'est l'explication principale. Nous sommes dans la deuxième année de crise, ce qui est assez rarissime dans l'automobile, dans le monde entier. Et on voit bien que le problème des semi-conducteurs, donc toutes ces puces électroniques qu'on ne peut pas mettre dans nos véhicules, détruit complètement les immatriculations de nos véhicules. Alors nos véhicules, que ce soit les nôtres français ou les étrangers, et en Europe et dans le monde entier. On est globalement à peu près à 11 millions de voitures qui n'auront pas été produites cette année dans le monde entier à cause de ces pénuries de semi-conducteurs.
Mais est-ce qu'on commence à avoir un tout petit peu de visibilité pour savoir quand ça va enfin s'arranger ?
Et hélas, c'est assez difficile. On commence à voir des semi-conducteurs qui arrivent, mais ils sont traités au cas par cas. Chaque constructeur gère avec sa direction industrielle, sa direction commerce pour favoriser certains clients par rapport à d'autres. Mais on est quand même sur une visibilité vraiment très mauvaise pour, bien sûr, pour la fin de 2021, mais même pour 2022.
Ce qui marche aujourd'hui, c'est le marché de l'occasion. C'est ce marché qui profite de la faiblesse du marché du neuf. Mais pour tous les constructeurs, c'est une mauvaise nouvelle parce que quand on a acheté une occasion récente, on ne va pas revenir d'ici quelques années en concession. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est quasiment une génération entière de voitures qui va être perdue pour les constructeurs automobiles.
Alors, c'est un phénomène assez lourd. C'est qu'en fait, on a une demande sur l'automobile qui est considérable, qui est montée d'ailleurs depuis le Covid, où on a bien vu que le grand vainqueur du Covid, c'est le transport individuel contre le transport en commun, que ce soit l'automobile, le vélo, la trottinette. On voit que cette demande, elle s'exerce sur l'automobile. Alors, comme on ne peut pas livrer des voitures neuves, elle se répercute sur l'occasion. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons de moins en moins d'occasions. Les occasions récentes, qui étaient en fait des voitures qui appartenaient à des sociétés, qui avaient un contrat pour 2 voire 3 ans et qui les remettaient en
Ce que vous nous dites, c'est que ce marché-là aussi est en train de se tendre, là, en ce moment ?
Ce marché est en train de se tendre. Et ce qu'on voit actuellement en France et en Europe est déjà arrivé aux États-Unis, où on a une pénurie de véhicules d'occasion et où le véhicule d'occasion a déjà pris 30% de plus par rapport au début de l'année.
Parce que nous, jusque-là, pour le moment en France, on parle plutôt d'une hausse de 10 à 15%, mais on avait l'impression que le marché était quand même alimenté. Vous parliez là des flottes d'entreprises, mais aussi par tous ceux qui maintenant achètent leurs voitures en leasing. C'est la majorité des achats aujourd'hui pour les voitures, et y compris pour les particuliers, mais ça ne suffit plus à alimenter.
Non, ce marché s'assèche. Il s'assèche à la fois parce que dans tous les pays européens, vous avez ce problème. Donc, vous ne trouverez pas en Allemagne des stocks de véhicules d'occasion. Les entreprises et particuliers gardent leurs véhicules. Et puis, on voit qu'on a en fait un marché qui monte dans l'occasion sur des véhicules très anciens. C'est-à-dire qu'on voit même un peu n'importe quoi. Des gens qui revendent des véhicules, des petites voitures à 400 000 km vendues à 500-600 euros. Donc, on voit très bien que la demande, le besoin d'automobile est là, mais on ne peut pas le satisfaire.
Parmi les secteurs qui fonctionnent quand même bien dans ce marché de l'automobile, c'est l'électrique. Les ventes sont enfin en train de s'envoler.
Oui, alors en fait, on fait très attention dans la répartition des puces électroniques par programme à privilégier les véhicules électrifiés, c'est-à-dire les électriques ou les hybrides, et puis les véhicules plutôt haut de gamme. Donc en fait, vous avez un effet un peu mathématique qui fait que ce sont les véhicules les plus chers qui sont privilégiés au détriment de l'entrée de gamme. Et c'est l'entrée de gamme qui fait le volume. Donc les chiffres de baisse sont accentués par le fait qu'on privilégie les autres véhicules.
Ce qui explique que des groupes comme Tesla, comme Ferrari dans l'ultra-luxe, mais également comme Jaguar Land Rover, s'en sortent plutôt pas trop mal.
Oui, tout à fait. Hein. On a des situations un petit peu différentes. Alors sur des groupes comme vous avez cité Ferrari, Tesla, Range Rover en particulier, Rover, vous avez des volumes qui sont assez petits. Donc là, on réussit à trouver des composants électroniques. Sur Tesla, c'est un petit peu différent parce que les véhicules Tesla ont des puces électroniques un peu différentes de celles qu'on utilise dans l'industrie.
Je crois qu'ils les adaptent en fonction quasiment de ce qu'ils arrivent à recevoir.
Voilà,
donc ça fait qu'ils sont moins touchés que les autres.
Voilà, il faut voir que, en fait, ce qui est assez tragique, c'est que l'industrie automobile est en concurrence sur ses puces électroniques avec les fabricants de smartphones, de consoles vidéo et d'ordinateurs. Donc, en fait, nous ne sommes pas les premiers servis. Nous ne représentons au niveau mondial que 10% du marché des vendeurs de puces électroniques.
Cette année, il devrait se vendre a priori à environ 1,7 million de voitures en France. C'est très peu par rapport aux grosses années. Ça va être une année qui va être historiquement mauvaise, l'une des pires.
Oui, on est dans les pires années de vente de véhicules, puisque effectivement, on sait qu'on va finir l'année autour de 1 700 000 véhicules. Nos prévisions sont un petit peu faibles, mais regardez, nous avons un nouveau variant du Covid qui arrive. Que se passera-t-il si personne ne veut aller prendre livraison de sa voiture? On est dans une année qui ressemble à des années 90. Hein. Donc, on se retrouve dans tous les pays au monde, d'ailleurs, dans un système qui est extrêmement bas et qui affecte à la fois l'industrie et le commerce. Hein, nos amis du commerce sont extrêmement ennuyés d'avoir des charges sur des bâtiments alors qu'ils ne peuvent rien livrer à leurs clients, ni neuf, ni occasion.
Eh bien, merci en tout cas pour tous ces détails. C'était François Rouillet, le porte-parole de la plateforme de la filière automobile qui était notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel, on vous retrouve demain également avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1 avec à vos côtés un invité exceptionnel, Guillaume de Seyne, l'un des principaux dirigeants d'Hermès.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Des conseils, solutions et des équipes dédiées pour accélérer la croissance de votre entreprise. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Voyons les unes de vos quotidiens. Demain, jeudi 2 décembre, Emmanuel Macron en casque de chantier à la une du Figaro. Il n'est pas question ici des coûts qui vont s'échanger sans doute pendant la campagne. Encore que, puisque le Figaro vous explique comment Emmanuel Macron s'est finalement converti au nucléaire, alors que le chef de l'État est longtemps resté ambigu sur ses projets pour l'atome en France, alors que la crise énergétique menace désormais, eh bien, il vient d'annoncer, vous le savez, une relance du nucléaire. Libération, on vous propose une enquête exclusive sur les institutions européennes. Petit trafic entre amis. Après des révélations sur les abus au sein de la Cour des comptes européenne, Libé dévoile un système de conflits d'intérêts et de trafic d'influence qui implique des membres du PPE à la Commission et à la Cour de justice. Ouest-France se demande pour sa part à quoi va ressembler l'alimentation demain des champs à l'assiette, puisque la pandémie et le réchauffement climatique chamboulent les grands enjeux alimentaires, des enjeux qui seront au cœur des assises de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Rendez-vous qui se tient ces jeudis et vendredis à Nantes autour d'un thème central, mieux produire pour une meilleure santé. On retourne tout de suite au Parc des Princes pour prendre des nouvelles de PSG Nice. Avec vous, Cédric Chasseur, vous êtes en direct. Quel est le score, Cédric?
Toujours 0-0, 68 minutes de jeu au Parc des Princes, mais le PSG a eu chaud, très chaud, il y a quelques instants, avec une tête de Dolberg dans les 6 mètres sur le poteau. Le ballon est revenu, frappé directement l'attaquant qui était au sol et a roulé vers Donnarumma, qui, tout heureux, a pu récupérer ce ballon. Et quelques instants après, de l'autre côté, dans la surface adverse, eh bien, c'est Mbappé qui a un peu trop ouvert son pied, il était seul face au but et le ballon est venu raser le montant de Benitez. Donc ça chauffe un peu des deux côtés, mais toujours pas de but. On attend la fumée blanche ici au Parc des Princes, 0-0, et il reste un peu plus de 20 minutes à jouer.
Cédric Chasseur en direct du Parc des Princes, toujours 0-0 donc entre PSG et Nice à 22h30 sur Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Alexandre.
C'est l'heure de votre libre antenne Olivier.
Exactement.
Pas très content des Parisiens ce soir.
Bon, écoutez, pour l'instant, il reste 22 minutes à jouer. Donc vous savez, c'est une belle équipe Nice. Monsieur Galtier qui était à Lille l'année dernière est maintenant à Nice. Mm-hmm. Et c'est une très belle équipe. Donc voilà, les Parisiens ont assez d'avance pour faire un petit 0-0 ce soir. Mais bon, vous savez avec le Paris Saint-Germain, il faut toujours attendre la fin du match.
Et les dernières minutes. Bah,
et les dernières minutes, car...
Tant que le coup de sifflet final n'est pas intervenu, bien sûr.
C'est la rançon des champions. Mais bon, voilà, j'aime bien Nice aussi. Vous savez, moi j'aime bien toutes
les
équipes.
C'est pour ça. Je ne voyais pas ce petit éclair dans vos yeux l'évocation du PSG ce soir, Olivier.
Non, je vais vous dire, en ce moment, je suis un peu fâché avec la manière de jouer du PSG. Je trouve que, bon, quand on a autant de vedettes, on joue un peu mieux. Je trouve ça poussif. Donc, voilà. Voilà, on verra.
On pourrait en parler des heures. Enfin, vous.
Exactement.
Pas moi, mais...
Et puis, vous savez, on pourrait en parler des heures, mais je pense que ça ferait certaines mécontentes et certains mécontents, car la communauté de la Libre Antenne n'est pas vraiment football, à ce que j'ai cru comprendre. Non. On vous retrouve tout à l'heure, en tout cas, ça c'est
avec
sûr.
Avec plaisir.
À 23h pour votre flash.
À tout à l'heure,
Alexandre.